entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info du jeudi. Ce soir, nous avons fait une petite sélection dans l'actualité. Nous commencerons par la situation, ma foi, confuse au Burundi. On parlera de la Corée du Nord et de la médiatisation des exécutions. On parlera du Mali et de la France. On parlera un peu de médias et de censure. On parlera de Au diable Dieu des barbares. On fera un petit tour par les médias en France. On parlera de gens qu'on aime beaucoup, la FNSEA. On parlera aussi de chiffres, on parlera du chômage et des immigrés, toujours un petit peu beaucoup de caricatures, on entend beaucoup de bouts de choses. Et ben alors on reviendra sur la question, on parlera un petit peu de gros sous, on parlera d'œuvres d'art, de rubis, de diamants roses. Voilà, on fera un petit tour un peu sur ce qu'est le business culturel. Et puis nous aurons une page plus polluée pour la fin de ce Canu Info.
Alors on va commencer donc par un petit bout de situation qui donne pas beaucoup d'infos parce que c'est un petit peu confus, un petit peu compliqué. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que à peine 13 ans après la fin de la dernière guerre civile, le Burundi a renoué avec une situation de violence qui a été bien sûr préparée par le président sortant. Donc aujourd'hui encore des violents affrontements ont eu lieu dans la capitale du Burundi entre les adversaires du président Pierre Nkurunziza et ses partisans qui eux assurent que le putsch qui aurait eu lieu hier a échoué. Alors c'est très très confus ce qui se passe. En tout cas, la situation. Alors dans l'idée, c'est le chef de l'État a prévu de se représenter un troisième mandat alors que la Constitution n'autorise pas trois mandats. Donc ça a été validé sa présentation sa candidature pour ce troisième mandat, ce qui a donc énervé une partie de la population burundaise puisque une fois de plus c'est un déni de démocratie. Puisque Nkurunziza a pas envie de laisser le pouvoir, quoi. En tout cas de le perdre, puisqu'il est obligé de lâcher. Donc a priori, il a pas compris ce que c'était que la démocratie. Donc le putsch qui a eu lieu hier a quand même mis en joie une partie de la population. Faut avoir ça en tête. Mais la joie a été a priori assez courte, puisque aujourd'hui les partisans du président ont, semble-t-il, repris le pouvoir. Alors même si la situation est tellement confuse qu'on n'est pas sûr de ce qui se passe, il faut savoir que donc le président Nkurunziza n'est pas au Burundi actuellement, puisqu'il est à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, pour un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique de l'Est. Donc la situation est confuse et on le voit notamment à travers les enjeux que sont les médias, puisque en début d'après-midi, la radio nationale burundaise a été attaquée par les putschistes. Donc l'antenne a été coupée, c'est le directeur de la station qui l'annonçait, hein, Freddy Zeimana, donc qui avait confirmé que l'émetteur a été coupé. Et là, en fin d'après-midi, un peu plus d'une demi-heure, la radio et la télévision nationale burundaise a à nouveau eu droit d'antenne et le directeur a pris la parole en expliquant que la situation était à nouveau maîtrisée. Donc c'est-à-dire que les supporters du président et une grosse partie de l'armée ont repris le pouvoir. Alors la radio a diffusé un message téléphonique du président Kourounziza qui était totalement inaudible, mais qui permettait de reconnaître sa voix et montrer qu'il était vraiment là à l'antenne et qu'il il soutenait et qu'il s'affirmait en tant que président, même si c'était pas très audible puisque la communication était très très mauvaise. De même, hein, sur les radios privées, il y a eu un gros enjeu puisque là aussi des batailles, c'est des vraies batailles, hein, coup de feu avec des morts, ont été attaqués hier soir et ce jeudi pour essayer de les prendre. Hein, on sait qu'une fois qu'on a les médias, on a un outil de propagande important, que ça marche dans les démocraties ou dans les régimes qui ne sont pas tout à fait des démocraties, comme le Burundi, puisque c'est quand même, au départ, une situation non démocratique, une attitude autoritaire du président Pierre Kourounziza qui a finalement enclenché ce coup d'État par des militaires. Donc c'est pas... on ne prendra pas parti, hein. Il n'y en a pas un qui sera sûrement meilleur que l'autre, mais au départ, c'est Kourounziza qui a allumé la mèche, en tout cas, et il y avait déjà eu des mouvements pacifistes, hein, pour dénoncer ce déni de démocratie, et ben voilà, ça s'est allé jusqu'à la situation aujourd'hui où ça ressemble à un début de guerre civile, à voir si la situation peut se stabiliser. La seule solution, finalement, ça serait que ça stabilise avec le pouvoir actuel et que Kourounziza lâche le pouvoir comme le demande la Constitution. Et le Burundi resterait dans un processus à peu près stable. On verra dans quelques jours ce qu'il en est.
Alors on va revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours en Corée du Nord, ou du moins ce qui s'est passé dans la presse internationale et en particulier dans la presse et les médias sud-coréens. Alors il y a cette information qui tombe cette semaine, Kim Jong-un aurait fait exécuter son ministre de la Défense, Yoon Hyung-chol, accusé d'avoir sommeillé lors de défilés militaires, d'avoir montré son mécontentement face à Kim Jong-un, d'avoir fait preuve d'insubordination. Alors c'est un vice-maréchal, il occupait ses fonctions à la tête du ministère des Forces armées du peuple depuis juin 2014. Auparavant, il avait été chef d'état-major de 2012 à 2013. Il avait été promu avec l'arrivée, hein, de Kim Jong-un en décembre 2011. Il était perçu comme un proche, hein, de Kim Jong-un. Alors, il faut savoir que le ministre de la Défense, il s'occupe plutôt d'échanges internationaux, des relations internationales, de logistique. Le but du ministre de la Défense, c'est pas de mettre en place une stratégie militaire. Donc, c'est comme ça que ce ministre de la Défense s'était rendu en Russie en avril pour préparer une participation de Kim Jong-un aux cérémonies du 9 mai dernier. Finalement, Kim Jong-un a finalement repoussé cette invitation, hein, puisqu'il s'y est pas rendu. Il avait annoncé, c'était pas une surprise, hein, qu'il irait pas. Alors on sait pas bien, hein, pourquoi finalement il y a eu ce petit revers. Est-ce que messieurs Poutine et Kim ont eu une petite bouderie de leur côté? On sait pas bien. Est-ce que c'est des problèmes en Corée du Nord? On sait pas bien non plus. Alors il faut savoir que les services de renseignement nationaux de Corée du Sud avaient annoncé il y a quelques semaines l'exécution de 15 hauts responsables pour trahison. Alors, les infos qui arrivent sur cette exécution, c'est quoi? C'est que ce ministre de la Défense aurait été exécuté le 30 avril dernier et par un canon anti-aérien. Le truc, déjà, quand même, c'est un peu comme si vous sortiez le bazooka pour désinguer votre souris. Je sais pas, c'est un truc de dingue. Qu'il aurait été exécuté dans une académie militaire au nord de Pyongyang. Et ça, c'est effectivement les services de renseignement de la Corée du Sud qui transmettent ces informations. Alors, comment ça est arrivé jusque dans les médias? C'est qu'il y a une commission parlementaire qui s'est réunie mercredi. Il y a une réunion d'information entre donc les services de renseignement et cette commission parlementaire, et ensuite les informations sont transmises à la presse. Sauf que aujourd'hui, par la pataquès, excusez-moi, j'en bafouille, on apprend que les services de renseignement sud-coréens ont admis qu'ils n'avaient pas pu vérifier l'information. Alors, ils nous disent qu'ils ont pourtant en leur possession des rapports qui pourrait, peut-être bien, on n'est pas sûr. Hein, globalement, en fait, l'information elle a été transmise sans aucune vérification et sans certitude. Alors, il y a quand même des députés sud-coréens qui avaient un peu émis des doutes à la sortie de cette réunion, puis avec la diffusion de ces informations. Il y a plusieurs remarques. Hein. Par exemple, il y en a, comme un élu de l'opposition, qui a trouvé bizarre que la télévision nord-coréenne continue à diffuser des images du ministre de la Défense, alors que sa disparition présumée avait déjà été annoncée en état, c'est-à-dire que en fait, le 12 mai, il y a encore eu des images de lui à la télé nord-coréenne, et que normalement, on a un peu l'habitude que quand il y a une disparition, on enlève toute trace. Hein, il y a le nettoyage, c'est-à-dire que du jour au lendemain, dans les médias et la propagande officielle, eh ben, il n'y a plus aucune trace de ces personnes. Ça va très très vite en général. Il y a aussi le fait qu'il y a sur le journal du parti unique nord-coréen, hein, sur le site internet, il y a un article qui date du 30 avril et qui raconte sa participation en tant que spectateur à un concert les 28 et 29 avril, ce qui veut dire qu'il aurait été le 28 et le 29 avril avec d'autres hauts responsables nord-coréens donc à ce concert, que le 30 avril on parle de lui et que le même jour il est fusillé à coups de canon anti-aérien. Voilà, donc tout ça est remis un petit peu en question, et puis surtout ce qui est remis en question c'est ces fameux renseignements sud-coréens qui sont un petit peu zélés, hein, il faut le dire. Alors entre le zèle des services de renseignement, la recherche du scoop des médias sud-coréens, de la propagande nord-coréenne, c'est très très difficile d'y voir clair actuellement, et c'est bien toujours le cas en fait quand les informations elles viennent de Corée du Nord, c'est qu'on n'est jamais tout à fait sûr. Et qu'on est encore moins sûr quand derrière il y a un zèle des services de renseignement qui répondent aussi à une politique qui n'est pas vraiment dans l'ouverture et dans l'amitié entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, il y a quand même aussi chez certains parlementaires, députés, chez certains politiques, une volonté de sévir envers la Corée du Nord, qui certes hein, fait tout pour qu'on lui tape dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. La semaine dernière, en fin de semaine, il y a eu un soi-disant missile sous-marin qui aurait été tiré. Alors les experts commencent à analyser les images en disant que ça aurait été tiré en fait d'un bateau, qu'en fait le truc aurait été nettoyé avec un logiciel d'image, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a tout ce discours aussi qui émane des politiques et des médias soutenus, hein, les politiques par les médias sud-coréens, et on ne sait pas bien vérité ce qui s'y passe hein, en vrai là-bas, et donc on ne sait pas ce qui a pu arriver à ce ministre de la Défense, puisque les services de renseignement sud-coréens disent « Ah mais on est à peu près sûr qu'il y a eu une purge. » Ah ouais, mais c'est un peu facile, tout ça se fait sans preuve. Donc voilà, finalement on ne sait pas bien hein, ce qui s'en passe, il y a eu un emballement, ça a fait le tour de la presse internationale cette affaire, mais comme toujours, il faut être assez vigilant. Alors moi, en faisant le tour un peu de toute cette presse, j'ai remarqué une petite chose, c'est sur les sites internet, les médias en ligne doivent donc illustrer leurs articles sur la Corée du Nord et sur Kim Jong-un par des photos, et en général les photos qui sont choisies, c'est des photos qui sont créditées KCNA, AFP ou Reuters. C'est-à-dire KCNA, hein, c'est l'agence de presse officielle de la Corée du Nord. Donc évidemment, on tombe toujours avec des photos où Monsieur Kim est souriant. Alors par exemple, moi j'en ai trouvé pas mal, hein. On voit là par exemple sur un article du 30 avril sur les Échos, on le voit tout souriant, on trouve des photos de lui alors en manteau noir souriant au milieu de la neige avec le soleil couchant ou le vent, hein, on sait pas bien, ça c'était sur les Échos, on trouve sur 20 minutes dans un article paru ce jour dont le titre est le leader nord-coréen Kim Jong-un quelque part en Corée du Nord, non ça c'était le titre de la légende de la photo, excusez-moi, là c'est sur un article qui s'appelle Corée du Nord, Kim Jong-un a-t-il vraiment fait exécuter son ministre de la Défense. Bon là, il est tout sourire à l'entraînement en manteau avec ses jumelles. Sur RTL, on le découvre Monsieur Kim sur un bateau avec la mer en arrière-plan, un peu décoiffé, tout sourire avec aussi le sous-marin en arrière-plan. C'est-à-dire que voilà, on retrouve une presse qui est obligée de relayer évidemment ces photos de propagande. Alors évidemment, il faut en rire. Hein. Il faut vraiment, je pense, aussi prendre ça comme ça. C'est-à-dire que ça serait bien que, déjà, on remarquera que tout le monde ne crédite pas correctement ces photos, et ce serait bien qu'on rappelle que ces photos sont vraiment issues d'une une propagande nord-coréenne, et pas juste de nous les amener, nous les exposer ainsi. Bon, même voilà. Si, très sincèrement, ça fait bien marrer. D'ailleurs, je vous renvoie à Paris Match, qui avait fait un reportage l'été dernier sur Kim Jong-un, avec des photos, c'est assez chouette.
On retourne en Afrique avec un petit mot sur le Mali, puisque a été signé un accord gouvernemental entre la rébellion et le camp gouvernemental. Donc cet accord dit du 1er mars, jusqu'à maintenant n'avait pas été paraffé par la rébellion Touareg, on va dire. Et là, hier, ils ont décidé de signer. C'est le responsable de la coordination des mouvements de l'Azawad qui a confirmé les choses. Tout en précisant que cet accord, qui était en quelque sorte un premier pas, une avancée avant une négociation plus importante, puisque malheureusement, dans cet accord, le texte prévoit certes la création d'assemblées régionales, mais pas d'autonomie ni de fédéralisme, comme le voulaient les combattants de l'Azawad. On rappelle que dans cette guerre du Mali qui a eu lieu au nord, dans le nord du Mali, l'Azawad, ils sont assez légitimes, puisque ces Touareg, ils demandaient une reconnaissance. Et le sud du Mali, là où il y a la capitale, Bamako, n'a jamais aidé au développement du nord, n'a jamais fait quoi que ce soit pour le nord du Mali, hormis les zones touristiques qu'il peut y avoir, Tombouctou ou des choses comme ça. Donc, les combattants de l'Azawad, que la France a toujours ultra condamné d'ailleurs, hein, enfin le gouvernement français, et qui se sont alliés ensuite avec les islamistes et a fait, bon voilà, il y a eu moult aléas dans des guerres de pouvoir et dans l'idée d'avoir une autonomie du Nord pour pouvoir construire cette région-là qui est vraiment délaissée par la capitale Bamako et les gouvernants du Mali. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est le fait que d'abord il y a un accord et qu'il soit signé par la coordination des mouvements de l'Azawad. Ça veut dire que ils vont, même s'y mettre la pression, essayer de trouver un terrain d'entente pour que le Mali sorte de la guerre. La plus grosse problématique, c'est les dépêches d'agence et les réactions du gouvernement français. Où on a Laurent Fabius, bon, qui se félicite, soit, et puis Hollande qui y va, qui félicite la médiation algérienne d'avoir mené le processus, et qui rappelle que toutes les parties sont amenées à signer cet accord et qu'elles doivent le mettre en œuvre. Donc il donne des ordres, le petit Hollande. Donc le petit Hollande, il nous rappelle que la guerre que la France mène là-bas, au nom de la lutte anti-islamique ou je ne sais quoi, reste une guerre de colonialisme, et que la France se comporte toujours en colon. C'est quand même assez inadmissible d'avoir ce genre de propos de la part d'un président français, ancien colonisateur, donner des leçons à un pays qui est en guerre et dans laquelle l'armée française est présente. Voilà, ça rappelle vraiment que le gouvernement français, la France, n'est jamais sortie de ce colonialisme. Même si l'action de l'armée française a pu être utile, vu la situation au Mali, la France ne respecte toujours pas ni la démocratie malienne, qui est quand même pas en super forme, ni les élus, ni les Maliens, qu'ils soient d'ailleurs au sud comme au nord, hein, puisque finalement la France n'a jamais voulu faire de premier pas vers l'Azawad et les combattants de l'Azawad. Donc voilà, c'est quand même assez triste de voir cette attitude néocolonialiste toujours présente.
Alors on part au Burkina Faso, c'est la semaine dernière, le Conseil supérieur de la communication a annoncé sa décision de suspendre les émissions d'expression directe sur les radiodiffusions sonores et télévisuelles pour cause de nombreux manquements sans pour autant les préciser, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien pourquoi. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, ce qu'on sait, c'est que les programmes de santé, les programmes ludiques, sentimentaux, culturels ne sont pas affectés. Mais il faut qu'ils restent dans la ligne, hein. C'est-à-dire que s'ils en sortent, ça va pas. Alors évidemment, c'est une régulation qui vise les émissions politiques qui vont devoir être maintenant enregistrées, qui pourront donc être filtrées et censurées. Alors, il faut se rappeler que le Burkina Faso est en période de transition démocratique. Il va y avoir des élections pour une nouvelle présidence et une nouvelle assemblée en octobre prochain. Donc, bon, il y a quand même un petit peu des gens qui réclamaient qu'il y ait un peu une démocratie qui se mette en place et que là, l'idée qu'il faudrait qu'il y ait une paix sociale et que donc il faut mieux finalement contrôler les débats politiques dans le cadre d'une transition démocratique, tout ça c'est un petit peu bizarre. Heureusement qu'il y a une mobilisation au Burkina Faso et une mobilisation aussi internationale pour essayer de faire casser cette décision du Conseil supérieur de la communication. Bon... les choses sont encore dures hein, dans le pays. Reporters sans frontières nous indique que le Burkina Faso est 52e sur 180 dans le classement 2015 de la liberté de la presse.
Oui, ils sont pas mal classés quand même.
Non, je rappellerai que la France, c'est 39e.
Ouais, on n'est pas très loin. Hein.
Ah, ouais, non, mais il faut remettre les choses dans son contexte hein, quand même. Alors, il y en a par contre qui sont beaucoup plus bas. C'est le Bélarus, 157e place sur 180. C'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible.
Non, ils sont que de peloton.
Eux. Ah, bah oui, là, quand même. Bon, il faut bien un premier, un dernier, hein, toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le cadre de la 19e exposition spéciale internationale, intitulée Les médias de masse au Bélarus, le ministère de l'Information a décidé de décerner un prix du journalisme et plein d'autres petits prix de ce type. Hein. Donc, c'est un rendez-vous qui est organisé sous la coupe du ministère de l'Information, du ministère des Affaires étrangères et de la ville de Minsk. Ça s'est déroulé la semaine dernière et la devise était « Le mot au service du monde ». Tout de suite, on sent qu'ils méritent leur 157e place. Hein. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Eh ben, c'est bien ça, c'est que ça a été organisé par les ministères de l'Information et que cette remise de prix en a fait s'étrangler quelques-uns et quelques-unes, dont Reporters sans frontières, qui écrit être loin de partager l'enthousiasme de cette manifestation et tient à rappeler l'état désastreux de la presse indépendante et tout particulièrement de la censure qui sévit sur Internet suite à l'adoption d'une législation liberticide. Voilà, alors, comme le rappelle Reporters sans frontières, dans cette manifestation, ce rendez-vous, il n'y a eu aucun rappel, aucun propos de tous les journalistes harcelés par les autorités, comme le rappelle Reporters sans frontières, tous ceux et toutes celles qui se voient refuser des accréditations. Donc comme ça, c'est plus facile après pour les accuser et les emmener en procès. En plus de ça, il y en a beaucoup qui ont des poursuites administratives sur le dos. Donc voilà, Reporters sans frontières s'énerve un peu, mais bon, l'organisation a peut-être un peu raison, c'est-à-dire que c'est un peu se moquer de la gueule du monde quand même. Voilà, c'est quand même pas un pays qui arrive beaucoup à s'ouvrir ces dernières années.
Le Canu Info, Radio Canu.
Oh diable Dieu! Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu.
Alors, la petite rubrique autour des religions avec un premier mot sur le Bangladesh qui, en ce moment, assassine à tour de bras les militants qui se battent pour l'athéisme, puisqu'un commando armé de machette, ça rigole pas, a tué le mardi 12 mai, donc il y a deux jours, le blogueur athée Anata Bijoy Das, 33 ans. Donc à Sylhet, dans le nord-est du Bangladesh. Donc Anitod Bijoy Das écrivait pour un blog qui s'appelle Mukto Mona, ça veut dire libre pensée, vous avez compris, la libre pensée c'est bien la défense de l'athéisme. Donc c'est un site internet qui se bat contre les religieux, contre la religion et surtout l'extrémisme religieux qui est très présent hein, quand même au Bangladesh. Et qui a été autrefois modéré par le blogueur américain d'origine bangladeshi, Avijit Roy. On en a parlé quand il s'est fait assassiner. Il y a c'était en février, donc lui est assassiné à Dhaka. Il faut quand même savoir que c'est le troisième blogueur athée qui blogue sur l'athéisme qui est assassiné au Bangladesh depuis le début de l'année. Ça fait quand même pas mal. Hein, c'est pas rassurant. Alors certes, Anata Bijoy Das avait reçu des menaces de la part de religieux pour ses écrits au cours de ces derniers mois, donc c'est officiel sur leur liste de cibles, hein, c'est un de ses amis qui raconte, ça a été quasi officialisé par les activistes religieux présents au Bangladesh, religieux islamistes. Voilà. On rappelle d'ailleurs que Avijit Roy, qui a été assassiné donc en février, son assassinat a été revendiqué par Al-Qaïda dans le sous-continent indien, là, ça s'appelle AQIS. Donc ça explique un petit peu ce qui se passe. Alors il y a quand même une petite réaction au Bangladesh, c'est qu'il y a eu une manif hier, donc le lendemain de l'assassinat de ce blogueur, de militants défenseurs du droit de dire ce qu'on pense et défenseurs de l'athéisme, donc toujours à Sylhet au Bangladesh, et pour réclamer surtout justice. Et là c'est pas gagné du tout, mais en tout cas ils y croyaient, ils ont fait une manifestation pacifiste en rappelant que on a le droit d'être athée et de défendre la libre pensée. Alors toujours sur la religion, une petite analyse de chiffres qui est donnée par un institut états-unien, puisqu'on va parler des États-Unis d'Amérique. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de recensement officiel aux États-Unis de la religion, comme en France d'ailleurs, de la religion des personnes. Mais cet institut qui s'appelle Pew Research Center a fait une enquête auprès de plus de 35 000 personnes pour leur poser des questions sur la religion. Ils le font régulièrement, donc ils ont une base de données, ils peuvent comparer tous les 2-3 ans et voir l'évolution d'année en année de la présence religieuse aux États-Unis. Donc ils ont fait le bilan et ils l'ont donné. Alors aujourd'hui, les États-Unis restent le pays le plus chrétien du monde. Hein, il y a 7 dixièmes de la population qui est chrétienne, c'est-à-dire 70% à peu près. Ça fait 170 millions de chrétiens aux États-Unis, donc le plus gros pays chrétien. Faut dire que c'est un des plus gros pays du monde aussi, donc c'est facile d'être le plus gros sur ce plan-là. Mais ce qui est plus intéressant, ça c'est donc l'analyse des chiffres de 2014. Par rapport à 2007, leur dernière grosse analyse, ça a beaucoup baissé, 8% de baisse, puisque au départ, il y avait 78,4% de chrétiens aux États-Unis. Donc une baisse de 8% en 7 ans, c'est quand même très très important à noter. Et leur étude montre que c'est dans tous les segments de la population. Donc les blancs, les latinos, les blacks, les hommes, les femmes, les diplômés, les non-diplômés. Hein, c'est un chiffre qui est relativement constant dans toutes ces parties de population. Mais ils ont remarqué que ça touchait quand même beaucoup plus les jeunes que les personnes moins jeunes. Et ça touchait, ce qui est plutôt rassurant, autant les catholiques que les protestants, sauf la partie évangélique qui, elle, a tendance plutôt à se développer hein, chez les chrétiens. Aux États-Unis en tout cas, et d'ailleurs partout dans le monde. En France, d'ailleurs, c'est la même chose. Alors, les protestants qui formaient il y a 7 ans la moitié des personnes affiliées à une religion, 51%, eux ils ont pas mal perdu aussi, donc ils sont passés à 46%. Bon, après je vous détaille pas tous les chiffres. Ils ont noté une petite augmentation des religions non chrétiennes, comme l'islam ou l'hindouisme, enfin il y en a d'autres hein, de religions non chrétiennes présentes aux États-Unis. Ils étaient à 4,7%, ils sont passés à 5,9%. Mais grosso modo, pourquoi il y a une baisse du nombre de croyants aux États-Unis? C'est parce que les non-religieux, les sans-affiliation, comme ils les appellent, ils ont du mal avec les mots aux États-Unis. Grosso modo, les athées, les agnostiques ont, eux, beaucoup augmenté, puisqu'ils sont passés de 16,1% à 22,8%. Donc aux États-Unis, actuellement, d'après leur étude, il y a 22,8% de personnes qui n'adhèrent pas à une religion. C'est quand même pas mal. Alors ils sont toujours minoritaires, les athées, quels que soient les pays du monde, ils sont toujours minoritaires. Ça, c'est une constante. Mais le chiffre augmente, alors qu'on a l'impression que la religiosité est de plus en plus mise en avant. Alors c'est certes le cas en France, et a priori aux États-Unis aussi, mais c'est mis en avant par des politiques, par des volontés quelquefois racistes et quelquefois pas racistes, mais juste que, voilà, ils se mettent en avant leur religion pour défendre leur bout de gras et faire de la propagande religieuse, grosso modo. Mais que dans les faits, là, les athées se développent aux États-Unis. Alors, l'âge moyen d'un athée aujourd'hui, c'est 36 ans aux États-Unis. L'âge moyen d'un croyant, c'est 52 ans, qui défendent à fond la chrétienté, on va dire. Sauf, ça dépend après, les catholiques, c'est plutôt 49 ans l'âge moyen. Enfin, voilà, il y a tous les chiffres, hein, mais ça montre que c'est les jeunes, en fait, qui deviennent de plus en plus athées. Et ils le deviennent, parce que l'étude montre que... Alors, il y a une partie de ces jeunes qui sont issus de familles qui sont déjà athées, ça oui. Mais ils ont noté une progression de conversion. Alors, souvent, conversion, on se dit, les gens qui se convertissent à une religion, ben, eux, non, c'est conversion dans le sens des gens qui sont nés dans un environnement religieux, qui se déclaraient croyants et qui disent à un moment, ben non, j'arrête, je suis pas croyant aujourd'hui, donc ils se convertissent à l'athéisme, si vous voulez. On utilise rarement le mot dans ce sens-là, mais ça existe, et c'est ça le principal différence. Donc voilà, c'était pour dire un chiffre plutôt positif, que dans le monde, le nombre de croyants augmente, hein, c'est les chiffres officiels, par contre aux États-Unis, ils baissent. Alors, parlons un petit peu de la Turquie. Donc la Turquie, c'est la plus haute autorité religieuse de Turquie hein, qui a annoncé une publication inédite de plusieurs milliers d'exemplaires de Coran en langue arménienne. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ils font des courants en arménien? Il y a encore des Arméniens en Turquie. Alors oui, il y a encore des Arméniens en Turquie. Malgré le génocide, hein, 1 300 000 Arméniens ont été génocidés, plus plein sont partis, tout ça. Il en reste 60 000 de Turcs qui sont considérés comme qui sont arméniens, plus 60 000 à peu près d'Arméniens, de vrais Arméniens qui habitent dans des régions turques. Donc ça fait quand même 120 000 personnes, ce qui n'est pas beaucoup pour la Turquie, mais ils ont décidé d'écrire un Coran. Vous allez me dire, c'est bizarre quand même, parce que les Arméniens sont plutôt chrétiens normalement. Je crois que c'est la nation chrétienne la plus vieille du monde. Alors, quel est le but ? Ça ressemble quand même à un but, au but de convertir. Hein. Alors, on dira pas de force, mais presque, hein, les Arméniens. Alors, on verra ce qu'ils en feront de ce Coran. Mais on a quand même des indices, notamment puisque le chef là, de publication qui s'appelle Yüksel Salman a annoncé qu'ils avaient aussi publié le Coran dans 16 langues, notamment en langue kurde. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, lors d'une réunion électorale dans le Sud-Est, hein, c'est une région où il y a pas mal de Kurdes, qu'a fait Recep Tayyip Erdogan, hein, vous savez, le président autoritaire et ultra-religieux de Turquie, il a brandi un Coran en langue kurde. Alors ça a été dénoncé parce que ça veut dire qu'il instrumentalise la religion à des fins politiques, mais on le sait, c'est son truc d'instrumentaliser la religion. Alors ça concerne les Kurdes pour ce qui s'est passé dans la réunion électorale il y a quelques jours. Vraisemblablement, avec cette édition du Coran en arménien, ça va aussi concerner les quelques dizaines de milliers d'Arméniens qui sont encore en Turquie. Voilà, pour cette info turque. Je crois que c'est tout ce que j'ai aujourd'hui sur cette petite info concernant la Turquie. On va parler un petit peu des barbares.
Dans le monde, et là sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort.
Donc cette petite rubrique autour de la peine de mort et des barbares qui la pratiquent encore, avec quelques petites infos cette semaine. La première sur l'Arabie Saoudite, où quasiment en même temps que Hollande était là-bas, mais il a fermé les yeux. Il y a un très beau dessin dans Charlie Hebdo sur ça. Il fermait les yeux, il écoutait pas. Trois yéménites ont été condamnés à mort pour trafic de drogue, donc est décapité par l'Arabie Saoudite. Mais Hollande n'a rien entendu, le gouvernement français n'a rien entendu. Ils ont juste entendu le bruit des dollars lors de la signature du contrat du Rafale, je sais plus combien de Rafales vendus à l'Arabie Saoudite. On passe à l'Indonésie. L'Indonésie, vous savez qu'il y a cette affaire de Serge Atlaoui, hein, qui a été condamné à mort pour trafic de drogue en Indonésie. Il aurait monté un laboratoire clandestin d'ecstasy. Donc lui, il se défend en disant qu'il a installé les machines et qu'il savait pas que c'était pour faire de l'ecstasy. Enfin, de toute façon, quelle que soit sa défense, enfin, son implication dans le laboratoire d'ecstasy, rien ne mérite, bien évidemment, la peine de mort. Donc, la cour administrative de Jakarta a commencé à examiner hier le recours déposé par Serge Atlaoui, puisque il a quand même eu déjà chaud aux fesses une fois, puisqu'il devait faire partie des 9 exécutés il y a quelques semaines par l'Indonésie, dans lequel il y avait 2 Australiens, 1 Brésilien, 4 Africains, 1 Indonésien. Alors les 8 autres ont été exécutés, condamnés à mort et exécutés, donc c'était le 29 avril dernier. Hein. Et lui, il y a échappé parce que il y avait un recours devant la justice administrative de l'Indonésie, et donc ils ont suspendu son exécution. Donc voilà où on en est. Normalement, cette cour devrait se réunir le 26 mai avec des experts judiciaires. Les témoins sont convoqués. Ce sera la dernière audience. Le 28 mai, on aura une info. Par contre, ce qui risque d'être annoncé le 28 mai, c'est qu'ils vont clore le recours, et ils risquent d'attendre plusieurs jours ou plusieurs semaines pour donner, hein, comme le fait la justice française, pour donner l'avis de cette justice, pour savoir si sa peine est commuée en peine à perpétuité ou si il sera assassiné par l'État indonésien. Le Pakistan, donc, s'est fait remarquer aussi. Vous savez qu'ils ont, vous savez pas, ils ont redémarré la peine de mort en 2008 et actuellement, ils y vont un petit peu rapidement hein, pour assassiner comme ça leurs condamnés. Il faut dire qu'il y a 8000 condamnés à mort qui traînent dans les geôles du pays, d'après Amnesty International. Donc là, ils ont exécuté un membre d'un parti politique qui s'appelle le Mutahida Qaumi Movement. Donc ils l'ont exécuté. Alors ça avait été reporté déjà plusieurs fois parce qu'il avait balancé notamment quelqu'un en disant que le meurtre qu'il avait commis hein, sur un directeur de la compagnie publique d'électricité de Karachi avait été commandé par quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un dont il y a déjà pas mal de soupçons d'être en lien avec le banditisme, on va dire. Mais voilà, ça n'a pas suffi, son exécution a été reportée et finalement, mardi matin, shtung, les autorités pakistanaises l'ont tué. Et puis, pour terminer cette rubrique sur la peine de mort, c'est l'Iran dont on va parler. Alors, l'Iran, c'est un petit peu compliqué, puisque à l'heure d'aujourd'hui, la majorité des exécutions sont plus annoncées officiellement. Par contre, comme ils exécutent en public, parce que c'est un peu les jeux du cirque, hein, on tue les méchants devant tout le monde, il y a des gens qui arrivent à savoir combien de morts sont exécutées par l'État iranien. Notamment, il y a deux rapporteurs spéciaux des Nations Unies, il y a Ahmed Shahid et Christophe Heinz, qui font ce calcul, qui sont allés en Iran et qui ont donc constaté une très très forte augmentation de la peine de mort et de l'application de la peine de mort en Iran, puisque entre le 9 et le 26 avril dernier, 98 prisonniers ont été exécutés, donc ça fait à peu près 6 par jour. C'est quand même pas mal. Donc voilà, l'Iran... Ça continue. Le régime des Mollahs ne semble pas faiblir sur la peine de mort.
Alors on va parler de toute autre chose maintenant. C'est un espèce de coup de gueule, vous allez voir. Ça va aller très très vite. Inter 13, vous connaissez peut-être. C'est le journal de 13h de France Inter, animé par Madame Claire Servagen. Et alors des fois elle nous énerve, Claire Servagen. Mais alors là, il faut dire que quand même, ce 13h, ce midi, elle nous en a mis une bonne petite couche. Elle recevait la porte-parole du collectif Saint-Ouen Debout. Alors c'est un collectif qui s'est monté pour tenter de faire du bruit sur la situation des jeunes à Saint-Ouen. C'est en tout cas ce que veut faire le collectif. C'est essentiellement des femmes et des mamans qui composent ce collectif. Et donc elle est invitée pour parler et donner son avis sur les réponses apportée par le gouvernement à leur appel. Alors dès le départ, on sent Madame Servagen assez poussive, limite insultante, elle insiste. Il faut dire que dès le départ, la porte-parole explique qu'ils ne demandent pas la répression. C'est pas ce qu'ils ont demandé. Eux, ils demandent finalement un peu de sous, de l'accompagnement, des activités. La porte-parole parle de nos jeunes. Hein, elle est pas en train de dire les dealers, voilà. Elle parle d'un problème, la drogue, mais c'est pas le problème. Donc elle insiste, elle se bataille contre une journaliste qui semble choquée que des honnêtes citoyens ne réclament pas plus de policiers, puisqu'elle lui fait même répéter dès le début de l'interview en disant quelque chose du genre, mais enfin, vous ne voulez pas davantage de policiers ? Et non, et non, et non, et non, et c'est insistant. Et c'est agaçant de voir aujourd'hui sur France Inter encore et encore des journalistes, des animateurs radio en appeler à la répression policière, en appeler à la surveillance systématique dans les quartiers, dans les villes. Voilà. Alors, on pourrait aussi ajouter qu'il y avait un moment cette espèce de ton complice entre femmes. Hein, on a remarqué que vous avez beaucoup. C'était
horrible.
C'était très dévalorisant. Oui, ouais. Parce que c'était vraiment le petit ton c'était complice qui venait d'un coup. Oui, c'était très méprisant. Et puis cette phrase de fin, votre message est entendu. Hein. Ah bah ça, oui, mais elle s'est bataillée cette porte-parole. C'est certainement pas grâce à Madame Claire Servagen que le message est passé. C'est bien parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait correctement, qui parlait bien, qui a su se battre, que le message est passé. Voilà, il y en a marre de ces interviews. Franchement, on se serait cru sur Fox News. Hein, moi, c'est vraiment le sentiment que ça m'a donné. Il me semble que toi aussi.
Oui, parce que on avait vraiment un discours de droite libérale, réactionnaire, ultra-autoritaire, ultra-sécuritaire, alors que le groupe de mamans qui a mis en place ces manifestations a un discours qui est vraiment très très classe, puisque elles demandent juste que leurs gamins aient les mêmes chances que les autres. Donc elles demandent de l'éducation, des services publics, plein de choses mises en place, et elles en ont rien à faire du trafic de drogue. Pour elles, comme elle l'expliquait bien, c'est pas ça le problème. Le trafic de drogue, c'est la conséquence de tout le reste. Si tout le reste est résolu, le trafic de drogue, il disparaîtra aussi, parce qu'il y aura un avenir possible pour ces jeunes, il y aura plein de choses. Et là, elles, car présentement, on en a déjà entendu d'autres, elles ont un discours très intéressant. Elles se battent pour changer leur société, leur ville, leur quartier, et on a des journalistes qui sont là juste à dire la drogue, c'est mal. Et on envoie des flics pour taper sur les dealers. Alors, c'était vraiment incroyablement réactionnaire.
Et comme elle l'a rappelé, plus il y aura de flics, plus il y aura de tension. C'est-à-dire que c'est aussi des propos qu'elle a tenus. Voilà. Donc, franchement, c'était de la merde, cette interview. Non, mais soyons clairs, il faut mettre un moment des mots sur ce qui se passe sur l'antenne de France Inter. C'était de la merde. Alors, on va continuer avec un autre média, beaucoup plus local. On va parler de Radio Trait d'Union. Ah, vous savez, RTU a eu quelques soucis. Eh ben, il y a une chose qui est sûre maintenant, c'est que RTU rend sa fréquence au Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc au CSA. Le 89.8 donc va être remis aux enchères.
Donc c'est une radio associative. Donc la logique voudrait que le CSA maintienne le pourcentage de radio associative à Lyon. Donc attende des dossiers et valorise un dossier de radio associative.
Voilà. Et alors, faut déjà se souvenir que Radio Trait d'Union, peut-être que c'est une radio que vous écoutez ou vous avez écouté, s'est rapprochée depuis déjà 2013, avec une accélération sur décembre dernier de Radio Nova, radio commerciale.
Ouais, alors ils ont été même phagocytés, on a l'impression. Et les programmes, c'est les programmes de Radio Nova sans la pub de Radio Nova, puisqu'ils n'ont pas le droit de faire de la pub. Alors, et il y a un but à tout ça.
Il faut savoir aussi qu'il y a eu la charte graphique. Hein, quand tu vas sur le site internet, tu te retrouves avec la charte graphique de Nova, les jingles, les top horaires, tous ces trucs qui marquent l'identité même sonore de Radio Nova se retrouvent sur RTU. Donc il y a eu un mixte. Même si pendant quand il y a eu les playlists musicales étaient différentes, hein, mais il y a eu quand même des émissions communes, effectivement, du programme commun. Et cette question, elle est effectivement, c'est celle que tu soulèves. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comme tu le disais, normalement, une fréquence qui appartenait à une radio associative doit rester à une radio associative.
Devrait.
C'est le principe, c'est ce qui se passe normalement. C'est-à-dire que normalement, on ne peut pas passer d'une fréquence gérée par une radio associative à une fréquence gérée par une radio commerciale. Alors, il y a des précédents. Il y a un précédent, c'était à Bordeaux en 2007, Sauvagine, qui avait rendu sa fréquence et qui avait vu cette fréquence attribuée à qui ? Radio Nova. Eh oui.
Non mais là en plus, avec leur phagocytage comme ils ont fait là, ils seront. Le but c'était de forcer le CSA, et le CSA va sûrement plier. Enfin, on verra dans quelques semaines. Si jamais c'est Nova qui obtient la fréquence, c'est illégal, c'est illégitime, c'est de l'escroquerie. Parce que ils vont justifier. On imagine. On verra si je me trompe. Ils vont dire, mais regardez, en fait, on était déjà présent dans cette radio, on la gérait déjà, donc on doit être prioritaire sur la fréquence. Et c'est ce qui risque de se passer. Et c'est totalement illégal, puisque normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Quelque part, ils achètent finalement cette fréquence, et ils la récupèrent, et une radio libre, c'est-à-dire sans pub, sans actionnaire, sans rien, va passer du côté privé, comme ça, par cette entourloupe. Bon, vous allez me dire, je me trompe peut-être. Dans quelques semaines, on aura la réponse, ou quelques mois. Mais ça semble bien comme ça, parce que Nova aurait aucun intérêt à le faire juste pour aider une radio en difficulté, pour qu'à la place, il y ait une autre radio associative. Donc, c'est bien dans le but de voler cette fréquence.
Alors, il y en a d'autres hein, qui aimeraient bien l'avoir. Hein. Sud Radio, c'est le groupe Fiducial, par exemple. Il n'y a pas hein, que Radio Nova. On pourrait vous expliquer que, par exemple, très très rapidement, il faut savoir qu'il y a des radios, elles sont nommées ABCD selon des critères. Qui c'est donc radio non commerciale, radio associative, radio commerciale. Ensuite, il y a des critères de territoire, de nombre d'auditeurs potentiels, enfin, voilà, qui fait que vous êtes en ABCD. Normalement, les critères sont assez précis et les fréquences correspondent à ces critères. Donc, c'est là où ça risque un petit peu peut-être de bouger, hein, parce qu'on sent le CSA être un petit peu conciliant peut-être sur la question. Il y en a d'autres qui avaient râlé. Alors, j'ai trouvé le syndicat interprofessionnel des radios et des télévisions indépendantes, le CIRTIR, qui avait râlé en décembre dernier sur cette possibilité que Radio Nova prenne la fréquence, c'est le syndicat de radio commerciale, hein, entendons-nous bien. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé sur leur site internet un article qui date du 27 novembre 2014 qui s'appelle « Libérer l'énergie des PME radio et télévision, le CIRTI aux côtés de la CGPME ». Voilà, pour bien rappeler que ce sont bien des groupements d'intérêts d'entreprises, hein, et pas des groupements d'intérêts d'animateurs ou de travailleurs. Voilà, mais ils avaient effectivement râlé, donc bon, bah, on va suivre un petit peu les décisions du CSA, ça risque de pas venir quand même tout de suite.
Ouais. Alors on va parler un peu de syndicalisme, mais du pire syndicat qui existe peut-être en France. Oh, il y en a peut-être d'autres quand même. Mais un de ceux que dont nous aimons bien parler, puisque nous tapons dessus à chaque fois, c'est la FNSEA. Alors, première raison, c'est un syndicat de patrons. Hein, même s'il y a des travailleurs dedans, c'est avant tout un syndicat de patrons, puisque c'est un syndicat paysan, et les paysans qui adhèrent, c'est pas les travailleurs du paysan, c'est les patrons paysans qui adhèrent à la FNSEA. Deux, ils défendent l'agriculture productiviste et polluante. Hein, même si maintenant ils mettent un peu de bio sur leur site, ils ont toujours milité contre le bio. Donc, on les aime pas, ici. Et alors, quand ils trichent, on les aime encore moins. Et là, ils ont fait un truc pas mal, il y a quelques années, des cotisations forcées. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils géraient... je vais retrouver mes infos et les faire dans l'ordre. Ils géraient des coopératives, et dans le prix de vente, d'achat qu'ils donnaient aux paysans, ils retiraient une partie de l'argent qu'ils redonnaient à l'FNSEA. Et ces paysans, qui venaient vendre leurs produits, eh ben, indirectement, ils adhéraient à la FNSEA, ils devenaient membres de la FNSEA, de trois groupes liés à la FNSEA, ça s'appelle l'AGPM, l'AGPB et la FOP. Donc, tout ça, ça a duré quelques années, ça a rapporté quand même 6 millions d'euros à la FNSEA, déjà c'est pas mal, et ça a permis à la FNSEA de grossir le nombre de ses adhérents, puisque chaque fois, c'était des adhérents, puisqu'on peut donner à un syndicat, voilà, c'est les cotisations syndicales. En novembre 2012, 5 dirigeants de la coopérative agricole et mise en jeu là, et des syndicats de la FNSEA, donc Xavier Belin, sont poursuivis suite à une plainte déposée par la Confédération paysanne, le syndicat paysan à gauche. Et bizarrement, en 2013, en janvier très exactement, le tribunal de Toulouse relaxe la FNSEA. Pourtant, le truc est reconnu. Donc les faits sont reconnus. Oui, ils ont bien encaissé 6 millions d'euros de cotisations sans que les gens qui payent s'en rendent compte. Oui, ils ont fait ça dans le dos, mais ils ont dit que peut-être la FNSEA était mal organisée, en tout cas c'est la défense de la FNSEA. Bon, vas-y, quand vous êtes dans un syndicat, les adhérents, vous les connaissez, hein, vous les avez. Hein. Et l'argent qui rentre, vous savez d'où il vient, quoi. Il peut pas tomber du ciel, hein, ni de la poche de votre voisin. Donc bref, les juges ont été ultra cléments. Allez comprendre pourquoi, et ont donc validé le fait de syndicaliser de force des gens et de récupérer de l'argent illégalement, ce qui est assez incroyable. Mais le ministère public a choisi de faire appel, ce qui paraît logique, que le ministère public dise non, ben, on ne peut pas valider la syndicalisation de force. Hein. Ils ont fait appel et l'appel a eu lieu il y a 2 jours, mardi 12 mai, et ils ont été à nouveau relaxés. Donc, aujourd'hui, en France, on a le droit de syndiquer des gens de force. Grosso modo, les patrons peuvent les faire syndiquer en prélevant sur leur salaire le montant du syndicat et les faire syndiquer au syndicat qu'ils veulent. Voilà ce que dit la justice. C'est quand même assez atroce. Alors, peut-être que dans le domaine hors de l'agriculture, ils ne le diraient pas, mais dans le domaine de l'agriculture, ils l'ont validé. Parce que la FNSEA, c'est un lobby, c'est un truc super puissant, en plus d'être un syndicat de patrons. Ils sont potes avec tous les ministres, ils sont très puissants. Ils arrivent à imposer des choses, même à la justice, ce qui est assez incroyable. Alors, il y a un recours qui est possible, c'est au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné plusieurs pays qui ne respectaient pas ce droit à ne pas adhérer à un syndicat professionnel. Parce que c'est pareil, il y a des pays qui syndiquaient de force les salariés. Ou si on n'était pas syndiqué, on ne pouvait pas avoir tel boulot. Hein. Donc ça a été condamné. Donc la Confédération paysanne entend saisir les instances européennes, la justice européenne, en espérant faire condamner la France, donc la justice française, et par derrière, l'FNSEA. C'est encore un mot ? Ah oui.
Eh bien, il me semble, écoute. Ah ouais.
Alors, j'ai un tout petit truc sur les chiffres du chômage chez les populations immigrées qui sont tirées d'une analyse d'un groupe qui analyse les chiffres de l'INSEE. C'est pas toujours facile hein, d'analyser les chiffres de l'INSEE, histoire que de casser un peu la propagande qu'on peut entendre sur les chômeurs, les immigrés qui parasitent le système social, etc. On va avoir des chiffres bruts hein, et on vous les donne. Alors, précision dans les termes que je vais utiliser et qui sont utilisés par ceux qui ont fait cette étude. Un immigré, c'est une personne qui vit en France, qui est née hors de France, mais qui peut être de nationalité française. Donc c'est quelqu'un qui est issu de l'immigration récente, mais qui a pu obtenir la nationalité il y a quelques semaines, quelques jours, quelques années. Quand j'utiliserai le mot étranger, c'est une personne qui n'a pas la nationalité française, même si elle est née en France. Il y a des gens qui sont nés en France, mais qui sont d'une autre nationalité. Voilà. Donc ça, c'est pour dire un petit peu ce qu'il en est dans le vocabulaire. Donc, les chiffres maintenant. 17,2% des immigrés actifs sont au chômage contre 9% des Français. Donc effectivement, ils sont presque deux fois plus au chômage que les Français nés en France. D'après l'INSEE, donc c'est la donnée, les chiffres étudiés datent de 2013. Alors, la question elle est, pourquoi c'est double ? D'où vient le fait que ces immigrés soient deux fois plus soumis au chômage que les Français nés en France? Alors justement, c'est là où ça devient intéressant, il y a l'analyse. L'analyse qui dit que le premier élément qui intervient, c'est l'écart lié au diplôme. Parce que les immigrés sont en moyenne moins qualifiés que les personnes nées en France, et qu'en France, il y a une particularité quand même de la France, c'est que le titre scolaire est primordial pour trouver un emploi. Et que certains diplômes étrangers ne sont pas reconnus en France aussi. Il y a des problèmes d'équivalence. Donc ça, c'est la première raison qui fait que il y a plus de chômage chez les immigrés. D'ailleurs, dans les chiffres, ils disent 45,3% des immigrés de 15 à 64 ans disposent au minimum du brevet des collèges. Hein, donc 45,3%, ils ont que ça, que le brevet des collèges, compte 28% sur l'ensemble de la population française née en France. Hein, donc, en France, il y a 28% qui ont que le brevet des collèges. Pour les étrangers, les immigrés, c'est 45%. Donc, effectivement, il y a une grosse différence de diplôme. Hein. Alors ensuite, les chiffres qu'on peut avoir comparent aussi à diplôme équivalent. Le taux de chômage est-il différent? Oui, à diplôme, notamment pour ceux du supérieur, il y a 6,1% des Français nés de parents français titulaires du bac sont au chômage, contre 18% des immigrés. Donc ça veut dire trois fois plus. Alors pourquoi? Alors là, les analyses sont diverses, on apprend plein de choses. Par exemple, les enfants d'immigrés sont souvent orientés sur des filières moins nobles, conduisant à un accès moins facile à l'emploi. Et donc l'étude montre, par exemple, qu'il y a beaucoup plus, dans ceux qui poursuivent les études chez les Français, d'ingénieurs, et il y a beaucoup plus de gens qui ont des masters de lettres modernes ou des diplômes comme ça, qui ne sont pas directement employables. Donc même à diplôme équivalent, il y a une sorte de discrimination dans l'accès au type de diplôme. Ce qui est intéressant, ce qui explique hein, une partie de ce chômage plus important chez les immigrés et leurs enfants. C'est aussi leurs enfants. Il y a plein de chiffres comme ça. Il y a pas mal de reproduction sociale et de l'environnement social. Par exemple, l'étude explique que les immigrés n'ont pas les mêmes réseaux de relations que forcément les Français qui sont nés en France et qui habitent dans une région depuis un certain temps. Qu'aujourd'hui, pour trouver du travail, les connaissances de la famille ou du réseau d'amis est très importante. Donc effectivement, quand on est immigré, qu'on est immigré depuis un certain nombre d'années en France, ce réseau il est moins fort, moins construit, il est plus difficile à mettre en œuvre et moins efficace. Du coup, c'est une sorte d'effet qui se coule, de double peine, parce que même si on a les diplômes, même si on a tout, eh ben, on n'a pas le réseau. Donc, quand on est immigré, on subit cette double peine du manque de réseau pour trouver du boulot. En plus, c'est pas fini, il y a encore deux raisons hein, de cette différence sur l'accès au travail, au marché de l'emploi. C'est que quand on n'a pas la nationalité française, il y a 5,3 millions d'emplois qui ne sont pas accessibles. Hein. Profs, flics, mais aussi des trucs bêtes comme architecte ou buraliste. Il faut être de nationalité française. Donc, il y a 5,3 millions d'emplois qui échappent, auxquels n'ont pas accès les personnes immigrées, qui ne sont pas de nationalité française, elles. Ça fait un poste sur 5 dans le monde du travail. C'est quand même pas mal. Du coup, ça explique finalement pas mal la grosse différence. Et puis reste, bien sûr, qui est beaucoup moins quantifiable, mais qui existe énormément, les discriminations à l'embauche, avec le nom, tout ça. Ça, par contre, c'est difficilement quantifiable, sauf quand il y a des opérations dites de testing, où là, on envoie le même CV avec un nom d'une telle origine et un nom d'origine française, et on voit la différence de réaction. Mais ça, sur les chiffres de l'ensemble de la population que donne l'INSEE, c'est pas quantifiable. Ils ne peuvent pas faire ça, parce qu'ils ne le savent pas. Hein, voilà. Donc, c'est toutes ces raisons qui font qu'effectivement, quand on est immigré en France, c'est beaucoup plus galère. Voilà. Et c'est juste pour rappeler que ces gens qui immigrent, ils galèrent beaucoup plus et que au lieu de leur reprocher tout ce qu'il faut, faut plus les aider. Voilà, c'est peut-être la conclusion de l'analyse qu'on peut faire de ces chiffres de l'INSEE.
Allez, très rapidement, vous avez entendu qu'il y a eu quelques records dans les ventes de peintures, de sculptures ces derniers jours. Alors, il faut dire qu'en ce moment, se déroule à New York le printemps des enchères de l'art. Ça a commencé la semaine dernière, mais il y a quand même toujours beaucoup de ventes. Par exemple, la semaine dernière, une sculpture de Le Corbusier a été adjugée 3 millions. On a eu mardi dernier l'allée des Alicornes de Van Gogh, 66 millions. Un tableau de la série des Nymphéas de Claude Monet, 54 millions. Ça, c'était Sotheby's. Chez Christie's, toujours à New York, donc c'était ce mardi. La statue L'homme aux doigts de Giacometti, 141 280 000 dollars. Tout à l'heure aussi, c'était des dollars. Veuillez m'excuser. Et puis, vous avez entendu parler de ce nouveau record qui, jusqu'à présent, était détenu par le triptyque de Bacon, trois études de Lucien Freud, adjugé en 2013 à New York, 142 400 000 dollars. Et donc là, on atteint les 179 365 000 dollars. Ça fait 161 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est pas tant d'ailleurs les nouveaux acheteurs. Ça fait déjà un moment qu'on sait que les Chinois, les Saoudiens, les Qataris sont des très forts acheteurs. Hein, c'est-à-dire en particulier les Chinois sont arrivés sur le marché de l'art contemporain et le marché des beaux-arts. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, ces femmes d'Alger de Picasso ont été adjugées en 11 minutes, que l'homme aux doigts de Giacometti a été adjugé au en 3 minutes, rendez-vous compte, 3 minutes.
Alors que vous, il vous faudra 512 vies au hasard comme ça pour gagner le même argent.
Alors, j'ai trouvé aussi, par exemple, des ventes de Sotheby's ce mardi soir à Genève pour un rubis birman avec soi-disant toute une histoire. Enfin, rien que la taille, elle est déjà jugée extraordinaire, tout ça. Il a été vendu 28 millions de francs suisses, ce qui nous fait à peu près 23 300 000 euros avec les frais. On est là en général sur une les Sotheby's Christie's. Ils récupèrent 10, 12, 15% à peu près. Donc il y a des marchés qui se passent bien. Ce qui est intéressant, c'est les estimations. Le Corbusier, sa sculpture, elle avait été estimée entre 380 000 et 570 000 euros. Je vous ai parlé de 3 millions d'euros. Là, on est bien en euros. Hein. Le Van Gogh, c'était estimé à 40 millions de dollars. Ça s'est vendu 66 millions de dollars. Le Giacometti, c'était estimé à 130 millions. On est passé à 141 millions de dollars. Et ce fameux Pablo Picasso est passé de 140 à donc ces 179 365 000 dollars, c'est-à-dire qu'en fait il y a des enchères très très fortes qui montent très très vite, et il y a une lutte très directe entre les acheteurs sur certaines de ces œuvres. Ça veut dire que le marché ne s'emballe pas, mais le marché est très réactif en tout cas. D'ailleurs, Sotheby's tient à signaler, la maison est très très heureuse de vous informer que le marché des diamants de couleur et des pierres précieuses n'a jamais été aussi dynamique. Ils en sont très très heureux, évidemment, ils récupèrent de l'argent. Donc il faut bien se dire que derrière, évidemment, des gens qui ont les moyens d'acheter ces choses-là que vous et moi ne pourrons jamais nous offrir, et que en plus ça repart aussi dans des maisons fermées, c'est-à-dire auprès de privés, puisque très très peu de ces acheteurs vont ensuite redistribuer ces œuvres d'art dans des musées publics, ou privés, mais en tout cas à la vue de tout le monde. Voilà.
Alors on va faire une petite page environnementale avec une mauvaise nouvelle. C'est le parquet de Paris qui a classé sans suite une plainte visant à dénoncer la pollution de l'air, notamment à Paris, suite à ce qui s'est passé ces dernières semaines, où depuis 1997, c'est la première fois qu'il y avait la circulation alternée mise en œuvre. Donc la plainte, elle était déposée par des associations, notamment Respire et l'ONG Écologie sans frontières, pour condamner les pollueurs en fait. Et puis obliger l'État à faire quelque chose contre la pollution. Maintenant qu'on sait depuis de nombreuses années qu'il y a plein d'études qui démontrent le lien direct entre la pollution de l'air et certaines maladies comme l'asthme. 30% de l'asthme chez les enfants en ville est dû à la pollution. 30% sur des enfants, ça fait un nombre assez important parce qu'il y en a beaucoup qui ont de l'asthme. Donc c'est pas anodin. Les bronchiolites, des cancers, et donc ça veut dire aussi des dizaines de milliers de morts. Et bien la justice a décidé que la plainte n'était pas acceptable. Donc, que fait la justice? Elle dit, oui, on peut pas se plaindre de l'air pollué. Oui, les gens qui polluent ont le droit de continuer à polluer, de continuer à rendre malades des millions de personnes, de donner de l'asthme à des millions d'enfants. Il n'y a pas de recours possible. Point. Voilà. C'est la triste nouvelle du jour. Donc, pollueurs, continuez de nous assassiner. Et un petit mot sur le gaz de schiste. Très belle étude américaine, donc avec la fracturation hydraulique. On a déjà vu plein de documentaires, tout ça. Et puis en France, là, il y a à nouveau la droite et la gauche de droite. Enfin, vous savez, le PS, là, ceux qui sont un pied dans la gauche et tout le reste du corps à droite, qui essayent de remettre en avant le gaz de schiste. Une grosse étude a été faite par des chercheurs de l'université de New York, dans le bassin de Marcellus, dans l'état de New York, qui sont allés analyser l'eau. Les gens qui buvaient de l'eau trouvaient qu'elle moussait un peu. Il n'y avait pas eu d'études. Donc là, ils ont analysé tout ce que contenait l'eau avec des méthodes modernes, la chromatographie gazeuse et puis bien évidemment la spectrométrie de masse. Vous savez, ça trace des traces et suivant le poids, et avec le poids on sait quel élément est visible dans l'eau, et ils ont retrouvé plein de produits dangereux, toxiques, produits qui sont balancés par ceux qui récupèrent le gaz de schiste. Alors l'étude est intéressante parce que ce qui arrive dans l'eau, ça veut dire que c'est tombé dans les nappes phréatiques. Or, le gaz de schiste, la fracturation hydraulique mise en œuvre pour extraire ce gaz de schiste, est assez loin des nappes phréatiques, à plus de 2 km. Ça veut dire que ça s'incruste dans le sol à plus de 2 km. Voilà, ça démontre une fois de plus que la pollution arrive jusqu'à vos robinets d'eau. Enfin, pas nous, hein, parce qu'il n'y en a pas en France. Voilà, et je crois que c'est la fin de ce Canu Info. Il nous reste une minute pour faire quelques petits agendas. Un petit truc pour dire que demain, le 15 mai, c'est l'anniversaire triste de la Nakba, vous savez, la catastrophe de la création de l'État d'Israël et donc de l'assassinat et de l'expulsion de dizaines, de centaines de milliers de Palestiniens des terres de Palestine. Il y a l'atelier des canulars, une conférence gesticulée, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je vous incite à aller voir demain soir, on sera le 15 mai, donc à 19h, l'atelier des canulars, c'est dans le 7e arrondissement de Lyon. Et puis le festival révolutionnaire a commencé, donc je vous laisse aller voir sur leur site ou sur Rebellion, puisque il y a plein de choses qui se passent. C'est le premier festival de France entièrement dédié aux cultures arabes urbaines. Et pour plus d'infos, je vous incite à écouter demain l'émission de rap à 22h qui s'appelle Chez les Arts. Maintenant, je me trompe toujours dans le nom, pourtant je fais l'émission avant eux. Donc il y aura des invités et un freestyle en direct par des rappeurs qui viennent, j'imagine, du Maghreb et puis de toutes les cultures arabes. Voilà, c'est le festival Revolution Air. Il est 20... Ah, on a dépassé de 7 secondes.
Eh bien, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. On vous laisse donc avec la petite cuillère. On vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.
Bye bye.